RCF.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au Caire. Non, pas en Égypte, mais dans le Caire, ce mot anglais qui signifie prendre soin. Vous vous demandez peut-être ce que ça vient faire dans nos villes et dans nos quartiers, voire même dans une émission comme l'Écho des Solutions. Eh bien, je dois avouer que moi aussi, je me suis posé la question, mais en creusant un peu, je me suis aperçu que c'était une révolution douce, mais radicale, qui pourrait bien changer nos vies. Alors, parlons aujourd'hui du Caire. Imaginez des villes où chaque projet urbain ne se contente pas de bâtir des immeubles, des routes, mais prend soin de nous, de nos besoins, de nos relations humaines. C'est ça, l'urbanisme du Caire. Derrière ce concept, il y a une idée simple, mais puissante, mettre l'humain au cœur de la ville. Prendre en compte nos vulnérabilités, nos histoires, nos différences. En gros, construire des espaces qui nous rassemblent et nous ressemblent. Et je vais peut-être dire de manière lapidaire, revivre ce que nos villages faisaient de manière assez naturelle il y a encore 60 ou 80 ans. Il faut donc désormais repenser notre façon de faire la ville en s'inspirant de principes éthiques centrés sur l'empathie, la solidarité et observer, écouter, co-créer avec les habitants, sans plaquer des solutions toutes faites qui cacheraient la fissure sans pour autant la réparer, mais en répondant aux vrais besoins, aux situations concrètes. Plusieurs champs de questions s'ouvrent donc à nous. Comment intégrer cette éthique du Caire dans nos politiques urbaines? Quel rôle pour les habitants, les associations, les pouvoirs publics? Est-ce une réponse au défi de la crise climatique? Comment l'urbanisme du Caire peut-il résonner et nous aider à construire des villes plus résilientes et durables? Nous allons donc aborder la question de l'innovation urbanistique. Et comme le disait l'inénarrable Jules Renard, l'idéal serait de vivre à la campagne en étant sûr qu'on peut aller à la ville quand on veut. Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans cette avant-dernière émission de la saison, bientôt la période de l'été pour l'Écho des Solutions, et on se retrouvera bien évidemment à la rentrée prochaine et ce sera aux alentours de 11h le samedi. Et puis bien sûr, nous n'abandonnons pas nos fidèles auditeurs du podcast de l'Écho des Solutions que je salue au passage, ainsi que vous toutes et tous. Cette semaine, on va évoquer la question, vous venez de le comprendre et de l'entendre, de l'urbanisme et du prendre soin au travers de trois grands acteurs. Tout d'abord avec notre invité du dossier de l'Écho des Solutions. Il est avec nous en studio, il s'agit de Johan Sportouche. Bonjour Johan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de L'urbanisme du Caire aux éditions de l'Aube, un ouvrage qui vient tout juste de sortir. C'est peut-être bien l'un de vos premiers médias d'ailleurs, non?
Oui, tout à fait.
Il est tout chaud, comme les croissants. L'émission aura peut-être un ton un peu plus philosophique avec vous, peut-être moins économique, mais il n'empêche que si on prend soin de la population, d'un quartier ou d'une ville ou d'un territoire, eh bien l'économie va suivre de manière naturelle. Et j'ai envie de dire, si on ne s'occupe pas des racines, il sera difficile d'avoir un joli feuillage. Et puis à la fin de l'émission, on recevra Louis Chevalier de Champy, l'un des cofondateurs d'une très belle association dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle les Bureaux du Cœur, ou comment accueillir des personnes sans logement ou en mal logement dans les bureaux entre 18h et 8h du matin, permettre à ces personnes de pouvoir dormir au chaud, se reposer, mais aussi de faire des rencontres et de partager leur histoire si elles en ont envie. Bien évidemment, on retrouvera aussi Maxime Pavlak pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Il a été choqué par un youtubeur, Maxime. Et comme toutes les semaines, on commence avec notre invité Echo. Cette semaine, nous allons évoquer les 20 ans des écoles de la seconde chance. Ça aussi, Johan, ça fait partie du Caire, hein. Prendre soin de ceux qui sont face à des inégalités sociales ou des déterminismes sociaux et qui peut-être n'ont pas l'idée qu'ils peuvent en sortir. Il existe pour cela des structures. Les écoles de la seconde chance nous le prouvent depuis 20 ans. C'est notre invité Echo de cette semaine.
L'invité Echo, Patrick Longchamp.
Et on retrouve notre invité éco de cette semaine, il s'agit d'Alexandre Chaillère, président des écoles de la seconde chance. Bonjour Alexandre.
Bonjour,
merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous fêtez vos 20 ans, presque la majorité absolue, c'était à 21 ans il y a encore une bonne quarantaine d'années, 20 ans d'existence de ces écoles de la seconde chance. Expliquez-nous un petit peu ce que sont ces écoles de la seconde chance. D'abord, est-ce que ce sont vraiment des écoles au sens où on l'entend ou est-ce que c'est une autre manière d'apprendre et d'enseigner?
C'est une autre manière d'apprendre et d'enseigner, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le mot « école ». Puisque, bien évidemment, on apprend et on enseigne aussi.
Alors, quel est un peu l'objectif de ces écoles de la seconde chance quand, il y a 20 ans, ont été créées les premières écoles?
Alors, elles ont été créées un peu avant ça, parce qu'en fait, Madame Edith Cresson était commissaire européen en 1995 et a proposé à la Commission de Bruxelles la création de tests dans tous les pays d'Europe pour créer des écoles de la deuxième chance. Et donc les tests se sont étagés entre 98 et 2002, et c'est après que c'est devenu une dimension qui dépendait des pays, c'est-à-dire les pays souhaitaient continuer après le test ou pas, et la France a plutôt continué. Donc les écoles de la deuxième chance à l'époque avaient un objectif très clair, qui est toujours le même aujourd'hui, recevoir des jeunes entre 16 et 25 ans, des jeunes sans qualification, relativement et fortement fortement éloignés de l'emploi et quasiment en voie d'exclusion. On s'était aperçu en fait que il y avait au bord du chemin énormément de jeunes qui étaient sortis comme des décrocheurs de l'éducation nationale et ou des systèmes éducatifs et qui n'avaient pas trouvé de solution. Il s'agissait donc de leur redonner une chance de construire un parcours d'intégration dans la société et dans la vie professionnelle.
Alors, quelle est la pédagogie un petit peu déployée par ces écoles de la seconde chance depuis 20 ans, Alexandre ?
Alors, la pédagogie est autour de deux points extrêmement importants qui font partie du dispositif depuis l'origine. D'une part, c'est basé sur l'idée que les écoles ne délivrent pas de diplômes, mais elles accréditent des compétences. On veut dire par là que l'objectif n'est pas de donner un diplôme, mais de garantir que le jeune puisse entrer dans la vie sociale, dans la vie citoyenne et dans la vie professionnelle et qu'il a les compétences nécessaires pour le faire. Et donc, on accrédite des compétences. Et donc, là-dessus, on était très en avance. Aujourd'hui, on parle beaucoup des compétences, mais il y a 20 ans, on était fortement en avance. Et le deuxième point extrêmement important, c'est la part de l'entreprise dans le dispositif. En fait, les entreprises sont très fortement intégrés à la mécanique des écoles. Et quand on parle de projet professionnel, nous considérons, et c'est la base, que la construction d'un projet professionnel, les premiers gestes professionnels se font dans et avec l'entreprise. Donc le dispositif est en alternance, environ 30% du temps de parcours des jeunes.
Il y a 20 ans, vous le disiez à l'instant, vous étiez quasiment des pionniers dans cette démarche. Aujourd'hui, vous avez été suivi par pas mal d'autres organismes, soit des organismes professionnels, soit des organismes d'insertion par le travail, soit par le biais d'autres écoles comme les apprentis d'Auteuil ou autres, peu importe. Est-ce que au-delà de ça, vous avez le sentiment que toutes les évolutions législatives, les évolutions de vision qu'on peut avoir sur cette population qui est décrocheur, que ce soit décrocheur scolaire, décrocheur d'emploi, a évolué dans le bon sens. Est-ce que vous imaginez, par exemple, que d'ici 10, 15, 20 ans, vous pourriez disparaître parce que tout est pris en charge par l'État ?
Alors, c'est une question que vous posez qui est extrêmement importante et qui a deux réponses. Et je suis content que vous la posiez parce que il est rare que l'on parle de ces deux points. Premier point, oui, ça a évolué dans le bon sens. Et je pense qu'il y a des chiffres pour en parler immédiatement. Quand on parle des décrocheurs de l'éducation nationale, on parlait de 150 000 il y a 20 ans. On parle de 100 000 aujourd'hui. Quand on parle des jeunes sans emploi et sans qualification sur le terrain chaque année, on parlait il y a 20 ans de 700 à 800 000 jeunes, on parle aujourd'hui de 400 à 500 000 jeunes. Donc oui, depuis 20 à 25 ans, tous les efforts de l'Europe, des États, des gouvernements successifs d'ailleurs, tous les efforts ont permis de partir dans la bonne solution. Donc oui, on peut déjà dire, et on fait partie de ces efforts, bien entendu. On a passé 150 000 jeunes dans l'ensemble des écoles depuis 20 ans. Donc oui, ça avance de la bonne manière. Et le deuxième point sur votre question, oui, bien sûr qu'il y a des concurrents, il y en a d'autres qui font la même chose, mais quand vous parlez de l'éducation nationale, ou on pourrait dire la même chose sur la sécurité sociale, quand vous construisez un système monolithique, ce qui est un peu le cas du système en France pour l'éducation nationale, vous avez mathématiquement un certain nombre de gens qui n'y correspondent pas. Et donc mathématiquement, ça provoque toujours quelques exclusions. Elles ont beaucoup baissé, elles existent encore, elles vont continuer à baisser, je pense, mais mathématiquement, il faut bien donner d'autres possibilités pour ceux à qui cette forme un peu monolithique ne correspond pas. Et donc c'est quelque chose que je trouve normatif, ça n'a rien de dramatique. Ça ne veut pas dire que ça n'existera plus, je pense que ça existera toujours. Et face à ces 400 000 jeunes dont je vous parlais, qui sont actuellement sur le terrain sans solution, nous ne pouvons pas être la seule solution. Jamais les écoles de la deuxième chance ne recevront 400 000 jeunes. Mmh. C'est pour ça qu'il y ait des concurrents, c'est pas gênant. Il est absolument nécessaire vis-à-vis de ce public de leur offrir plusieurs catégories de solutions. Quand on va dans les quartiers, par exemple, on voit des associations d'insertion par le sport, par la culture. On voit un certain nombre d'associations de quartiers qui travaillent sur le développement durable. Tout ça est nécessaire. C'est le cumul de tout ça qui fait que ça marche.
Alors justement, 20 ans, 169 000 personnes accueillies, 62% je crois de sorties positives, de sorties par le haut. C'est énorme, Alexandre Chaillère.
Oui, par rapport au public que l'on reçoit, effectivement, les résultats sont plutôt bons. On a 62% de sorties positives. Alors, ce qu'on appelle par le haut, c'est que sur ces 62%, il y en a 16% qui signent un contrat d'apprentissage, qui est déjà de l'emploi, puisqu'ils sont salariés d'une société. Donc, il y en a 16% qui sortent en contrat d'apprentissage. Il y en a 23% qui sortent en ce qu'on appelle les formations qualifiantes ou diplômantes, c'est-à-dire qu'ils ont identifié un métier et ils veulent avoir un diplôme pour ce métier. Donc, ils vont faire un bac pro, un BTS, et ils sortent vers les systèmes de formation qualifiante. Et puis, il y en a 22% qui vont directement à l'emploi.
Très rapidement, pour terminer, Alexandre Chaillère, quel est l'enjeu, quel est le défi à relever pour les 20 prochaines années? Allez, on va dire pour les 5 prochaines années, les 10 prochaines années.
Écoutez, notre premier défi, c'est d'être correctement reconnu par l'ensemble de nos partenaires, et je parle là en particulier des missions locales et de France Travail, comme un dispositif structurant et complet pour accueillir les publics les plus en difficulté. La deuxième chose, c'est de préserver et d'amplifier notre capacité et notre savoir-faire pour répondre à d'autres publics. Nous sommes en cours de test actuellement, par exemple, sur des publics bénéficiaires du RSA qui pourraient aussi rentrer dans cette mécanique. Mmh. Et puis, le troisième enjeu très important, mais celui-là, il est important pour tout le monde en ce moment, c'est de pérenniser le financement. Il est clair que le financement des écoles, qui est très particulier, puisqu'il y a l'État, il y a les régions, il y a l'Europe, il y a les entreprises par l'intermédiaire de la taxe d'apprentissage. Donc, c'est un financement complexe pour les directeurs des écoles. Et il est clair que la pérennité de ce financement est d'une grande importance.
Merci beaucoup, Alexandre Chaillère, d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Bon anniversaire aux écoles de la seconde chance. Nous, on continue tout de suite avec Maxime Pavlak pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Maxime Pavlak.
Et on retrouve Maxime Pavlak pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Maxime.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes président de la commission écologie des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Maxime, vous souhaitez aujourd'hui nous parler d'un YouTuber que vous avez découvert récemment et qui vous a particulièrement choqué. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, Maxime ?
Ah, oui, effectivement, parce que récemment, j'ai demandé à ma nièce de 12 ans ce qu'elle regardait sur YouTube. Et elle m'a parlé d'un certain MrBeast, qui est en fait un YouTuber américain extrêmement populaire chez les jeunes. Pour vous donner une idée, ses vidéos dépassent régulièrement 100 millions de vues. Alors donc, j'ai visionné une de ses vidéos au hasard, et là, je suis littéralement tombé de ma chaise. En fait, dans cet épisode, le concept, c'était pour un candidat de tenter de protéger un yacht, un vrai yacht, un bateau, contre des attaques de canons, des vrais, des explosifs, des vrais, et des flèches enflammées. S'il réussit à protéger son bateau et à ce que le bateau ne coule pas, il gagne le bateau et 50 000 dollars en plus. Alors le principe, c'est qu'il va pouvoir dépenser beaucoup d'argent payé par la production pour acheter des protections pour son bateau. Alors il va acheter des dizaines de matelas, il va acheter des containers, il va acheter des vieilles voitures pour entourer le bateau et le protéger. Au milieu de l'épisode, le YouTuber fait un placement de produit magistral pour une magnifique barre chocolatée à son nom. J'ai aussi découvert que son business, c'est qu'il a lancé plusieurs marques de chaussures, de vêtements, etc. Quand on regarde ça, en fait, on a vraiment l'impression que la réalité dépasse la fiction. On se croirait dans une mauvaise projection futuriste d'un film des années 80.
Moi, ça me rappelle un petit peu l'agence touriste, vous savez, quand ils fabriquaient avec trois barres de fer un tank pour défendre le pauvre cultivateur qui est embêté par des grands méchants. Alors, pourquoi est-ce que cela vous a choqué, Maxime ?
Bah là, on est clairement sur un exemple ubuesque de la dégradation de notre rapport à la création. Parce que couler un bateau pour le spectacle, pour faire 100 millions de vues sur YouTube, dans un monde de ressources finies, dans le but qu'un candidat gagne de l'argent en faisant la promotion au passage d'une barre chocolatée, bah en fait, il n'y a rien qui va. C'est le genre de contenu qui est non seulement est absurde, mais qui aussi est dangereux pour nos jeunes, parce qu'il est symptomatique d'une culture pauvre, en fait, d'une dégradation de notre spiritualité et de notre rapport au réel. Le pire, c'est qu'ils arrivent à rendre ça vraiment fascinant et addictif, parce que la vidéo, elle est extrêmement bien produite, et on se croirait un peu dans un jeu vidéo.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien, parce qu'il y a forcément un lien que vous faites entre ce YouTuber et surtout l'absence de spiritualité?
Je reprends Laudato aussi, hein, dans lequel le pape François nous rappelle que la crise écologique est aussi une crise spirituelle. Il parle en fait de l'interconnexion qui existe entre notre relation à la création et notre vie intérieure. Regarder et consommer du contenu qui glorifie le gaspillage et la destruction, qui glorifie la culture du déchet, ben en fait, c'est s'éloigner de cette conscience spirituelle qui est bonne pour nous. En somme, la détérioration de notre rapport à la création et la dégradation du monde, finalement, est directement liée à la détérioration de notre relation à Dieu et quelque part aux blessures de notre âme.
Merci beaucoup Maxime Pavlak, on se retrouve l'année prochaine. D'ici là, passez un bel été. Nous, on continue tout de suite en musique sur RCF dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après avec notre invité du dossier de l'écho. Il s'agit de Johan Sportouche. On parlera de l'urbanisme du care, l'urbanisme du prendre soin. A tout de suite, on continue en musique. C'est sur RCF, c'est dans l'écho des solutions.
Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas. Et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il suffirait de rien, juste un peu de courage. Prendre son destin en main, apprendre à oublier et à tourner la page. Il suffirait de rien, comme il dit, juste un signe. Rien qu'une aube un matin et décider enfin d'écrire ses propres lignes. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas. Et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danses qu'on ne danse pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas. Ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il suffirait de rien, juste la résilience.
C'était Grégoire sur RCF. Il y a tant de choses que l'on ne dit pas, et il y a tant de choses aussi à faire dans nos territoires et en urbanisme. C'est l'objet du dossier de l'écho de cette semaine. On l'ouvre tout de suite avec notre invité Johan Sportouche.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, il est donc temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine avec vous, Johan Sportouche. Vous venez de publier aux éditions de l'Aube un ouvrage qui s'appelle « L'urbanisme du Caire ». Les vacances vont frapper à notre porte. On va peut-être découvrir des villes, des villages. Et l'urbanisme, eh bien, c'est ce qui aujourd'hui nous permet de bien vivre la ville. Mais vous, vous allez un petit peu plus loin dans votre réflexion, Johan. C'est de mettre la ville, de mettre le care, le prendre soin au cœur de la construction de la ville. Johan Sportouche, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez donc évoqué à l'intérieur de cet ouvrage cette question du care. D'abord, est-ce qu'on peut redire, nous expliquer ce qu'est l'urbanisme du care? Parce que en recevant votre ouvrage, j'en ai compris toute l'intelligence, mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on met le care à côté d'urbanisme, le prendre soin à côté de l'urbanisme.
Alors effectivement, ça n'a pas été théorisé comme tel. Il y a plusieurs architectes, des urbanistes en fait, qui réfléchissent depuis un certain moment à comment en fait on peut interroger le care à l'aune de l'urbanisme. Mais plus largement, il existe depuis un certain nombre d'années un certain nombre de concepteurs qui vont dans le sens fabriquer en fait des villes plus vertueuses, qu'elles soient plus relationnelles, qu'elles soient plus inclusives, qu'elles soient basées sur ce qu'on appelle l'économie circulaire. Il y a un certain nombre en fait de toutes ces personnes-là qui travaillent à rendre effectivement les villes plus vertueuses. À travers l'urbanisme du Caire, moi j'ai eu la volonté en fait de proposer une approche systémique qui propose quelque part en fait de réunir. On a beaucoup entendu parler en fait il y a quelques années de la ville du quart d'heure par exemple, c'est-à-dire en fait cette théorie portée par Carlos Moreno notamment qui propose d'avoir
tout à moins d'un quart d'heure de chez soi.
Exactement, c'est cela. Et donc quelque part en fait on prend en compte les besoins réels en fait des populations. Et donc l'idée c'est de se dire que en fait l'urbanisme du Caire théorise une approche holistique, une approche globale pour tenir compte quelque part en fait des besoins des habitants mais également de la planète.
Alors comment justement la notion du Caire, vous dites, vous écrivez le Caire est une éthique qui se centre sur les interactions empathiques et le souci de l'autre. Comment aujourd'hui expliquer cette définition et comment elle se traduit concrètement dans la dimension urbanistique?
Alors déjà c'est intéressant en effet de s'arrêter deux petites minutes sur la notion du Caire. Effectivement c'est une philosophie, une éthique qui a été créée dans les années 80 aux États-Unis par une philosophe qui s'appelle Carol Gilligan. À l'origine de cette éthique, il y a une expérience qui a été menée qui est en fait interroge deux jeunes enfants, Amy et Jack, et en fait il leur est proposé de réfléchir à un dilemme, ce qu'on appelle un dilemme moral. Et en fait ce dilemme moral, c'est un monsieur qui s'appelle Hans, qui habite à l'étranger, qui est extrêmement pauvre, et sa femme tombe malade. Et en fait on demande aux jeunes enfants de qu'est-ce que devrait faire Hans finalement, sachant qu'il peut pas acheter le médicament pour sa femme. Et bien Jake lui propose de voler le médicament, alors que Amy propose elle de trouver une solution avec le pharmacien, c'est-à-dire en fait de compter sur l'humanité du pharmacien. Et donc quelque part de jouer sur la question de l'interdépendance qui existe entre le pharmacien et lui-même, entre le pharmacien et cette personne qui est malade, en l'occurrence sa femme, et parce que en fait au centre de la décision, il y a la question de la vulnérabilité, et derrière c'est la question de la responsabilité que l'on a par rapport aux personnes vulnérables.
Ça veut dire qu'il faut séparer la question de la justice et du soin?
Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il existe dans notre société un idéal de justice, et effectivement, basé sur la justice, mais que quelque part, au-delà de cet idéal, c'est-à-dire quelque chose qui reste idéal, eh bien, il y a des situations. Des situations qui, quelque part, vont au-delà, quelque part aussi même de l'idéal de l'égalité, des situations réelles sur lesquelles... Vous comme moi, moi par exemple, je marche à pied et je serai quelque part jamais égal en fait à une personne qui est en situation de handicap et qui dans la ville doit se déplacer en fauteuil roulant.
C'est ce qu'on voit paraître parfois sur cette définition entre l'égalité et l'équité. Il vaut mieux avoir quelque chose qui soit équitable que quelque chose d'égalitaire, parce que l'égalitaire finalement on n'est pas tous sur le même pied.
Alors vous savez, moi ça fait des années que je suis engagé sur des sujets de lutte contre les discriminations notamment. Donc la perspective de l'égalité réelle en fait, c'est quelque chose qui me tient au cœur et tient encore d'ailleurs. Mais ce que je dis, c'est qu'en fait il existe des situations qui font que aujourd'hui, eh bien, il faut parvenir en fait à l'égalité réelle en fait. Et comment on s'y prend? C'est notamment en fait en prenant en compte en fait ces situations réelles, ces situations de vulnérabilité, et que on a une capacité en fait à être responsable en fait vis-à-vis de ces situations.
C'est une forme, si on le reprenait sous l'angle philosophique, c'est une forme de phénoménologie de l'urbanisme que vous nous proposez au travers de cet ouvrage.
Oui, c'est en l'occurrence c'est effectivement ça. L'idée c'est de réinterroger l'urbanisme à la racine, dans le sens où en fait l'urbanisme est une manière de fabriquer la ville qui aujourd'hui pendant des dizaines et des dizaines d'années finalement a c'est construit sur ce qu'on appelle en fait l'urbanisme de l'offre, c'est-à-dire notamment en fait de créer des quartiers entiers pour favoriser la croissance ou pour favoriser quelque part en fait l'attractivité. On a beaucoup parlé d'attractivité en fait des villes. Aujourd'hui, on est dans une situation critique de notre société.
Je me souviens que dans les années 70, parce que j'ai rebondi sur ce que vous dites, on a construit des quartiers entiers, on a construit de l'offre de logement, on n'a pas construit des quartiers de vie. Et d'ailleurs aujourd'hui, Heureusement, on commence à revenir un peu en arrière. Je me souviens de grands combats dans les années 70 sur ces villes nouvelles qui émergeaient, de grands combats qui aujourd'hui seraient peut-être un peu différents, mais avec les évêques des diocèses qui disaient dans ces villes nouvelles, mettez des lieux de spiritualité, parce que ce qui va faire l'âme aussi de votre ville, c'est ces lieux de rassemblement, ces lieux où les gens vont pouvoir pratiquer leur foi, qu'elle soit catholique, juive, protestante ou musulmane. Donc aujourd'hui, c'est cette réflexion de l'urbanisme du Caire, c'est sortir de ces quartiers inhumains qu'on a construits dans les années 70-80 pour retrouver quelque chose de plus humain.
En tout cas, c'est sortir en fait de l'urbanisme de l'offre pour faire émerger un urbanisme des besoins, des besoins réels aujourd'hui on rencontre. On est effectivement dans une addition de crises, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient démocratique, on le vit encore actuellement, qu'elle soit sociale. Depuis la crise sanitaire, il y a une augmentation des personnes qui sont en situation de pauvreté en France, et que face à cette, et puis j'oublie évidemment la crise du logement, crise de l'immobilier qu'on a vécu cette dernière année, et que quelque part en fait face à cette addition de crise, eh bien nous en tant qu'acteurs de la fabrique urbaine, il faut à un moment donné qu'on prenne nos responsabilités. Prendre nos responsabilités, ça veut dire qu'en fait il faut renverser la table et quelque part changer de paradigme sur la manière dont on construit la ville pour faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus que le principe moteur en fait de la fabrication des villes soit de répondre aux situations de vulnérabilité qui aujourd'hui, quand il y a trop de vulnérabilité, eh bien notre société devient archipélisé, comme le dit
Jérôme Fourquet dans l'archipel français, où il évoque en fait cette notion de on vit par îlot en fonction de ses accointances les uns avec les autres. Comment vous en êtes venu, vous, Johan, à vous intéresser à cette question de l'urbanisme? Vous êtes urbaniste vous-même. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette question du Caire dans l'urbanisme? Très souvent, quand je questionne mes invités dans cette émission, il y a un déclic, il y a quelque chose qui marque le point de départ du travail que vous faites.
Alors, moi, j'étais engagé depuis pas mal de temps, notamment lorsque j'étais étudiant. J'étais bien souvent plus sur le terrain qu'à la fac, pour tout vous dire. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur brillant qui... parlait très fort, qui savait se faire entendre, en l'occurrence c'est Roland Castro, et qui m'a fait comprendre que quelque part en fait à travers la psychanalyse, puisqu'il a été suivi notamment par Lacan, toute sa philosophie architecturale reposait sur la perspective de remettre au centre de l'architecture la question du sujet. Face à une théorie en fait du mouvement moderne qui a traité les masses, on va réintégrer la notion du sujet. Et quelque part, moi, lorsque j'étais militant, lorsque j'étais sur le terrain où on travaillait notamment à recréer des espaces de vivre ensemble, c'était le cas dans le 19e arrondissement de Paris, j'étais engagé dans l'Union des étudiants juifs de France, on travaillait avec différentes associations de quartier, et j'ai vu là le pouvoir réel des responsables associatifs qui au quotidien prennent en compte et apportent des solutions de briques et de broc souvent aux habitants. Et en fait, dans notre métier, parce que nous en fait on est au sein de mon agence, la première des choses que l'on fait lorsqu'on travaille sur un projet urbain, c'est qu'on va tout le temps sur le terrain. Et c'est d'ailleurs en fait le premier aspect de l'urbanisme du Caire, c'est de savoir partir des situations, des situations réelles, observer les situations. Pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'experts concepteurs, on n'est pas des experts d'usage. Les experts d'usage, ce sont les habitants. Je vais vous citer une anecdote qui est assez intéressante et qui répond à votre question. Un jour, alors qu'on travaille sur une ville qui s'appelle Colombelles, qui est à côté de Caen, c'est une ville qui est assez pauvre pour le coup, et qui, où en fait le chômage des jeunes est très présent. Et donc je me dis, connaissant en fait cette situation-là, cette donnée-là, je me dis, il faut qu'on aille rencontrer des responsables associatifs et notamment, pourquoi pas, des éducateurs de rue. On va rencontrer un éducateur de rue, là je me retrouve en fait dans une salle de boxe, et le monsieur me dit, bon alors c'est quoi ton projet ? Et je lui dis, mon projet, c'est qu'on doit travailler avec un opérateur immobilier parce que lui, il souhaite développer une cinquantaine de logements, et au rez-de-chaussée de ce bâtiment, il va il imagine, puisque c'est la ville qui demande, il imagine des commerces, des locaux associatifs, de locaux d'activité, etc. Et il me dit, bah voilà, tu vois, moi je vais te dire quelque chose. Tu me parles de rez-de-chaussée, mais en fait, moi, mon travail au quotidien, le premier principe de mon travail, c'est la discrétion. Pour pouvoir accompagner des jeunes au quotidien et leur apporter réellement en fait de l'aide, eh bien, il faut que je travaille sur la discrétion. Donc tu me parles de rez-de-chaussée. Mais en fait, moi, je vais te dire rez-de-jardin. Parce que du coup, il faut que je puisse ne pas être vu, tout simplement. Parce que si demain, les parents de ces jeunes savent que je les accompagne, eh bien, en fait, ils vont être suspicieux. Eh bien, il faut voilà, partir des situations réelles, c'est déjà comprendre ça. Et donc, je me dis que, voilà, c'est comment on part du Caire. Eh bien, en fait, comment on intègre le Caire, eh bien, on va surtout s'intéresser et faire en sorte de s'intéresser à ces personnes qui, au quotidien, en fait, apportent des solutions réelles, en l'occurrence, les acteurs locaux.
Si je comprends bien ce que vous dites, Johan, en fait, il faudrait quasiment, avant chaque projet urbanistique, partir d'un audit de terrain, audit, j'ai envie de dire, social, audit économique, audit environnemental, afin de pouvoir proposer à cette réflexion urbanistique une chance de réussite dans la construction, j'ai envie de dire, à la fois économique, mais aussi environnementale, mais aussi sociale.
Tout à fait, c'est exactement ça. C'est passer de l'urbanisme de l'offre à l'urbanisme des besoins. Comment on s'y prend ? Eh bien, il y a quatre aspects. On part d'abord des situations. On n'est pas seulement en fait des experts. Les experts, ce sont les habitants, ce sont les acteurs locaux. La deuxième chose, c'est que on va comprendre les besoins. Effectivement, vous avez prononcé un mot, c'est la question du diagnostic. Aujourd'hui, les études de marché sont le cœur battant de la fabrique urbaine. Et alors que le diagnostic social, eh bien, il est réservé uniquement aux projets de rénovation urbaine, aux quartiers NPNRU, donc en l'occurrence, qui sont concernés par les logiques
de densification et de masse qui ont été, donc on veut démassifier.
Exactement. Donc ça veut dire qu'en fait le diagnostic social c'est uniquement pour les pauvres, si on le dit vite. Et ça c'est insupportable, parce que dans la situation qu'on vit actuellement, eh bien si on ne peut pas faire de diagnostic social, de diagnostic environnemental, le diagnostic environnemental existe de plus en plus, social, non. Et donc du coup, effectivement, je propose dans ce livre en fait de faire en sorte que le diagnostic social devienne obligatoire pour toute opération de logement, pour toute opération d'activité.
Et alors, terminer peut-être. Si vous...
Oui, et en fait, ça, c'est le deuxième aspect, c'est-à-dire de comprendre les besoins réels. On va déterminer quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, et c'est de cette manière-là qu'on va mettre des nouvelles lunettes, en fait. On va mettre des nouvelles lunettes, nous, en tant qu'architectes, urbanistes, ces lunettes qui vont nous permettre, en fait, d'identifier les vulnérabilités qui existent autour d'une parcelle que l'on a aménagée. Et la dernière chose, c'est se dire que, c'est difficile. C'est pas la voie la plus facile, hein, l'urbanisme du Caire. C'est même la voie la plus compliquée de faire avec l'autre. Et donc, du coup, il faut inventer, mais surtout, il faut se baser sur ce qu'on appelle l'interdépendance.
Alors, dans cette émission, on aime beaucoup un concept qui n'est pas de moi, d'ailleurs. Il est de l'ONU. C'est le 17e objectif du développement durable, celui des partenariats, et particulièrement des partenariats territoriaux. On l'a évoqué à de nombreuses reprises cette année dans l'émission. Finalement, ce que vous nous proposez, c'est ça, c'est des partenariats territoriaux. Comment on arrive à mettre tout le monde autour de la table? J'ai envie de dire, le monde associatif, ça va. Les urbanistes, il y a des gens comme vous qui y réfléchissent. Des architectes, ouais, ils aiment bien ce genre de projet. Il reste un gros corps, c'est le corps politique. C'est ceux qui font justement les programmations urbanistiques, qui vont vous appeler. Comment on va les mobiliser, eux? Est-ce qu'ils ont conscience que ça peut être, comme je le disais dans mon introduction, une révolution douce, mais une révolution quand même, de réfléchir à un urbanisme du Caire?
Aujourd'hui, j'entends de plus en plus de maires qui disent « on ne peut plus construire, on n'arrive plus à construire ». Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de recours, parce que les gens demandent de plus en plus à être concertés. Et lorsqu'ils sont concertés, ils sont dans une logique individualiste. Mais en fait, la réalité, je vais vous raconter, c'est que j'ai rencontré, je suis cité deux anecdotes. Un jour, on a été sur un projet, on a travaillé comme ça. En fait, on est allé rencontrer des acteurs locaux, on a imaginé une programmation qui allait servir aux habitants, répondre aux habitants. J'étais sur le terrain et je reçois un coup de fil. Et là, numéro inconnu, donc je réponds pas. Je consulte le message vocal et je rappelle le monsieur et il me disait. je lui explique toute la démarche et en fait, il s'avère que c'était la personne qui était responsable de la consultation en question, en l'occurrence d'une collectivité. Et là, qui me dit, c'est génial ce que vous faites, c'est vraiment super, sauf qu'en fait, on peut pas le faire. Sauf qu'on peut pas le faire parce qu'en fait, on a peur que les habitants parlent trop ensemble. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui,
les collectivités... Il faut pas qu'ils parlent, ça pourrait créer des révolutions, c'est ça.
Exactement.
En fait, c'est ça.
Et donc, on marche sur la tête, en fait. Là où on est, encore une fois, je le redis, dans une situation d'instabilité énorme, en fait, dans notre pays, et effectivement de crise climatique, il faut être en capacité. Parce qu'en fait, la question de la vulnérabilité, elle est également centrée sur la question de l'humain, évidemment, mais également sur la question de la prise en compte, en fait, de la vulnérabilité de la planète. Aujourd'hui, quand on pense vulnérabilité, on pense également à la planète.
Et puis, il y a un urbanisme du care, du prendre soin. On l'a vu, j'ai lu des articles là-dessus qui m'ont toujours étonné. C'est qu'aujourd'hui, en termes, je parle d'architecture et pas d'urbanisme, on a perdu des savoir-faire millénaires de ces architectures qui permettaient de garder au frais des bâtiments entiers au Moyen-Âge par période de forte chaleur en Espagne, en Afrique, etc. qu'aujourd'hui on est incapable de reproduire parce qu'on a perdu, on a perdu les savoir-faire.
Et en fait, il y a des élus et des collectivités qui mettent en œuvre en fait justement, qui mettent les gens autour de la table parce qu'en fait ils ont compris qu'il fallait réfléchir à long terme. C'est le cas par exemple, en fait j'en parle dans mon bouquin, c'est le cas d'une collectivité de Nantes Métropole et notamment Nantes Métropole Aménagement.
Évidemment, si vous prenez ma ville à moi, c'est pour me flatter, Johan, que vous prenez Nantes. Mais vous avez raison, Nantes est plutôt pas mal dans sa réflexion, même si je trouve qu'il y a trop de béton et trop de place publique. Mais ça, c'est une autre
question.
Alors,
c'est en train de changer, justement. Je vais vous parler d'un sujet assez intéressant. Pierre-Mille-les-Îles, en fait. Pierre-Mille-les-Îles, c'est un projet urbain qui se développe sur 3 communes, et notamment celle de Nantes. Et donc, c'est un gros projet urbain. Et plutôt que de se lancer à corps perdu, comme d'habitude, c'est-à-dire on va prendre un architecte, on va prendre un paysagiste qui vont déterminer un plan guide. Donc c'est un plan, en gros, d'espace, de tout l'espace à aménager. Et ensuite, on va lancer consultation après consultation auprès d'opérateurs immobiliers. Et bien en fait, ils se sont dit, on va faire différemment. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de développer des quartiers bas carbone. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va construire avec d'autres matériaux que du béton. Pourquoi le béton? Abandonner, enfin, en tout cas délaisser un peu le béton, parce qu'aujourd'hui, le béton, c'est l'un des plus gros émetteurs de carbone, et notamment dans la construction. Donc on va faire en sorte d'aller construire en bois, d'aller construire en paille, d'aller construire en chanvre. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas en fait ces filières locales qui nous permettent de construire à grande échelle. Puisque du coup, quand on va chercher du bois, en tout cas c'était le cas il y a 2-3 ans encore, on allait chercher notre bois en Pologne ou dans les pays d'Europe de l'Est. Et donc à partir de là, ils se sont dit, on a un grand espace aménagé. Donc on va prendre notre temps et on va réunir tous les acteurs de la fabrique urbaine en leur disant, débrouillez-vous ensemble. On va faire la méthode des 5 pas de côté. On va réfléchir sur 5 thématiques qui sont réelles, qui sont la nécessité, notamment parmi elles, de construire, structurer des filières locales. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et aujourd'hui, il y a des filières locales qui, aujourd'hui, se créent grâce à ces types de mécanismes, ce qu'on appelle d'interdépendance.
Et donc là, on a un vrai exemple de ce qu'est aujourd'hui l'urbanisme du care tel que vous la définissez, c'est ça?
Effectivement, c'est exactement ça. Il y a des exemples qui, aujourd'hui, il y a d'autres exemples, il n'y a pas qu'à Nantes, Marseille notamment.
Je suis désolé.
mais aujourd'hui, l'idée et ce que j'essaye de faire émerger, en fait, c'est véritablement un appel aux acteurs de la fabrique urbaine pour qu'ils puissent prendre leur responsabilité. Et tenir compte quelque part de toutes ces images, tous ces projets vertueux qui existent pour faire système. C'est également aux élus pour qu'ils puissent se dire que le processus de fabrique urbaine, les temps de concertation, ce sont des espaces pour quelque part recréer de la cohésion sociale.
Quels sont les leviers de réussite si jamais on a des maires qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer dans un projet d'urbanisme du care? Quels sont les leviers de réussite? Quelles sont les premières étapes que vous leur indiqueriez pour pouvoir bien mener ce projet et commencer à bien y réfléchir et pas qu'ils partent en cacahuète au bout de quelques mois?
C'est de définir les besoins. Les besoins réels. Et pour cela, il s'agit de mener des diagnostics collaboratifs avec les acteurs locaux notamment, mmh. avec les responsables associatifs, avec les commerçants, avec les gens qui font vivre le quartier tous les jours, les quartiers. On a vu à quel point pendant la crise sanitaire, on a eu besoin de ces commerçants de proximité. On a vu à quel point le président de la République lui-même a mis en valeur en fait ces personnes-là, et notamment également les personnels de soins, de santé. Et en fait, il a dit quelque chose de très important, c'est que ces personnes-là ne sont pas assez valorisées au sein de la société. Mmh. Et donc, quelque part, en fait, il faut tenir compte, il faut s'inspirer de ces personnes qui produisent du soin tous les jours. Mmh. Et donc, la première des choses à faire, c'est de développer un projet de territoire à partir des besoins réels. Et pour cela, il s'agit de partir des situations et d'aller chercher comme ça ces personnes-là qui sont engagées dans la résolution des besoins au quotidien des personnes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être d'imaginer en fait des réponses et donc se dire qu'on a cette capacité de faire en sorte qu'on va répondre aux vulnérabilités, d'identifier des poches de vulnérabilité. Et en fonction de cela, eh bien, on va aller ensuite chercher d'autres mécanismes que l'on n'a pas l'habitude d'aller chercher habituellement. Mmh. C'est-à-dire travailler avec des CCI, travailler avec une association, travailler avec un commerçant. Mmh.
C'est là où on arrive à cette notion de partenariat territorial.
Exactement.
Pour un développement durable. Et moi, au quotidien, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux commencer, un auditeur qui nous écoute, est-ce qu'on peut commencer déjà à prendre corps dans cet urbanisme du Caire, ne serait-ce que dans son quartier, dans sa raquette de maisons? Comment on peut faire?
Tout à fait. Eh bien, tout simplement en se disant que, en fait, la question de la fabrique urbaine, la question de la ville, c'est pas uniquement réservé aux techniciens. Mmh. Je me souviens d'un échange que j'ai eu avec un ami qui est un militant associatif et qui, en voyant le titre de mon bouquin, m'a dit oula, ça a l'air très technique tout ça. Je lui dis non, pas du tout. Et c'est un appel que je lance en fait à toutes les personnes qui sont engagées pour plus de justice sociale et qui n'ont rien à voir avec l'urbanisme, de s'intéresser à ces moments-là, à ces moments de fabrique urbaine. Souvent, la démocratie participative, c'est quand même très tout ce mot autour de la concertation. Voilà, c'est très old school, quoi. Mmh. Moi, je parle jamais de concertation. Mmh. D'ailleurs, en fait, dans notre métier, on parle tout le temps de maîtrise d'usage, de besoin, de travailler avec, de faire avec. Eh bien, pour les auditeurs aujourd'hui, je leur dis profitez de ces temps-là parce que aujourd'hui, c'est la ville qui se fait, la ville qui se construit, c'est quelque part les prémices, les erreurs que l'on peut éviter qui nous permettront demain, quelque part en fait, de mener moins de luttes, notamment pour plus de justice sociale, moins de luttes pour recréer des espaces de vivre ensemble. Parce qu'au moment où on crée ces espaces, eh bien, si on a cette perspective un peu globale et cette cohérence du vivre ensemble dès le départ, eh bien, on a cette possibilité quelque part de refaire société.
Une dernière question qui est un peu en exergue, mais qui est en même temps conjointe, c'est le rapport à la crise climatique. En quoi l'urbanisme du Caire peut apporter une réponse justement à cette crise climatique qu'on traverse? Est-ce que c'est ce fameux quart d'heure, donc on prendra moins de véhicules pour se déplacer, et donc on va apporter, ou est-ce que c'est l'exemple de ce que dont nous a parlé aux alentours de Pyrmil à Nantes, avec cette filière et cette éco-conception des co-quartiers et quartiers bas carbone?
Alors, c'est beaucoup de choses en réalité, mais c'est surtout cette perspective de se dire que aujourd'hui, à l'image en intégrant les préceptes de l'éthique du Caire, et notamment en mettant au centre de la construction, au centre de la fabrique urbaine, la question de la vulnérabilité, eh bien, on pense inévitablement à la planète. Aujourd'hui, par exemple, en fait, je cite une anecdote dans mon bouquin. J'explique que ces dernières décennies, eh bien, on a vu disparaître les moineaux, notamment de nos villes. Mmh. On a de plus en plus de pigeons, ouais. Mais on a moins en moins
de moineaux. Ouais.
Et quelque part, en fait, réfléchir à la vulnérabilité de la planète, c'est se dire comment on fait, tout simplement, pour retrouver quelque part aussi ces oiseaux-là. Et donc, c'est demain remettre au centre cette question. Et donc, ça passe effectivement par la construction de quartiers bas carbone, mais ça passe aussi par des logiques tout simplement de ce qu'on appelle de low-tech aussi. Et donc, de travailler avec, de trouver des bonnes idées ensemble.
Et alors, vous le disiez tout au début, et je me suis dit, il faut que je pose la question, et elle arrive à la fin. Comment on peut rendre ça systémique? Parce que des personnes et des personnalités comme vous, que j'ai pu recevoir, qui ont des belles, des bonnes idées, et souvent on se dit, bon, c'est bien, mais ça ne devient pas systémique. Et on sait que si on veut vraiment développer durablement nos villes et nos campagnes, mais nos villes surtout, avec cette notion d'urbanisme du Caire, il faut que ça devienne systémique. Comment est-ce qu'on peut rendre ça systémique? C'est la loi qui doit passer par là?
Oui, je crois que c'est la loi qui doit passer par là. C'est le processus de fabrication de la ville lui-même dans la manière dont les entreprises sont consultées. Vous savez, par exemple, en fait, il y a un triptyque qui existe toujours dans la fabrique urbaine, qui est donc le fait d'avoir une phase 1, une phase 2, une phase finale. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est complètement dingue de se dire que on a toujours des gens qui sont un peu exclus à la fin. Le deuxième. C'est pas celui qui va fabriquer. Pourtant, ce deuxième-là, je suis sûr qu'il a de très, très, très bonnes idées. Et donc, c'est aussi la nécessité de se dire que, en fait, dans cette situation-là, eh bien, on peut changer quelque part, en fait, le mécanisme de fabrication de la ville lui-même. Et se dire que on va travailler beaucoup plus sur des questions d'intelligence collective et remettre au centre l'intelligence collective pour trouver des solutions ensemble.
Merci beaucoup, Johan Spartouche, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous avez sorti un ouvrage qui s'appelle L'urbanisme du Caire, au cas où vous ne l'auriez pas compris. L'urbanisme du Caire, c'est des éditions de l'Aube, c'est disponible depuis quelques jours. Nous, on continue, et on est passé de l'urbanisme du Caire à l'urbanisme du cœur avec les bureaux du cœur. Il s'agit de Louis Chevalier de Champy, l'un des cofondateurs des bureaux du cœur, une très belle association nantaise aussi, Johan, comme quoi il se fait plein de belles choses à Nantes. Je vous invite à venir visiter Nantes cet été et je n'ai pas été payé par le voyage à Nantes pour vous le dire. Donc on retrouve tout de suite Louis Chevalier Champy pour parler des bureaux du cœur. Il est notre invité des 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, on termine cette émission avec nos 7 minutes pour changer le monde. Comme toutes les semaines et après le Caire, on va passer au cœur avec les bureaux du cœur. Je suis avec Louis Chevalier-Champy. Bonjour Louis.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, on va évoquer les bureaux du cœur, une initiative nantaise. On a parlé un petit peu de Nantes avec Johan il y a quelques temps. Les bureaux du cœur, si je résume très rapidement, ce sont des dirigeants, des entreprises qui décident, parce qu'elles ont l'espace, parce qu'elles ont la possibilité d'accueillir des personnes qui sont en situation, on va dire, de mal logement ou de galère de logement, le temps qu'elles retrouvent, j'ai envie de dire, un pied à terre, et elles sont accueillies dans les entreprises entre 18h et 8h du matin. Est-ce que quand j'ai dit ça, j'ai à peu près tout dit, ou du moins est-ce que j'ai bien pitché le projet, Louis ?
Alors, presque bien pitché le projet.
Ah.
Les bureaux du cœur, en fait, notre spécificité et notre raison d'être, c'est d'être capable de mettre en relation des associations qui accompagnent des personnes qui sont en phase d'insertion par le travail et qui sont forcément dans cette espèce de spirale compliquée entre « j'ai pas de travail, j'ai pas de boulot, enfin, je voudrais un boulot, il me faut
un logement,
et si pour avoir un logement, il me faut un boulot », donc en fait, c'est le chien qui se mord la queue. Et donc, en fait, les bureaux du cœur ont été créés à Nantes, certes, et le but étant d'arriver à mettre en relation les associations donc, qui accompagnent ces personnes-là et des entreprises qui sont prêtes à ouvrir leur bureau le soir et le week-end pour les mettre à disposition de ces personnes-là.
Alors, comment est née cette idée très originale? On vous voit dans de nombreux médias. Donc, à la fois, vous êtes, j'ai envie de dire, bankable, c'est-à-dire qu'en fait, le projet intéresse. Mais comment est née cette idée, ce projet? Il y en a un d'entre vous qui s'est réveillé un matin en disant « Tiens, j'ai un canapé, j'ai une douche, on pourrait peut-être faire quelque chose avec ça ?»
Alors c'est presque ça, effectivement. L'idée vient de mon co-président qui est Pierre-Yves Loeck. En fait, il était président du CJD à cette époque-là. Et il s'est dit un matin...
Le Centre des Jeunes Dirigeants.
Oui, pardon, le CJD Centre des Jeunes Dirigeants. Et un matin, il s'est dit ben, « Je voudrais pouvoir accueillir la personne qui est en train de faire la manche et qui dort devant mes bureaux. » assez lucidement, il a accepté le fait de se dire qu'il n'était pas trop capable de faire ça chez lui, mais par contre, dans son entreprise, aucun problème. Et au contraire, il faut savoir une chose, c'est que les entreprises, en moyenne, les bureaux ne servent à rien 70% du temps. Et donc, l'idée a germé comme ça. Et ensemble, nous avons pu faire éclore cette idée et l'amener à sa réalisation actuelle, qui est effectivement une belle réussite.
Alors aujourd'hui, c'est combien de chefs d'entreprise qui accueillent? Alors, c'est plus sur Nantes, hein, ça essaime un peu sur le territoire, mais combien de chefs d'entreprise aujourd'hui accueillent des personnes en galère de logement?
Alors, les bureaux du cœur, aujourd'hui, c'est à peu près un tout petit peu moins de 250 entreprises qui accueillent. Nous sommes présents dans 28 villes, dont 3 villes même à l'étranger, puisque nous sommes à Lisbonne, à Barcelone et à Bruxelles. Et donc, dans chacune de ces villes, nous avons une délégation de bénévoles qui se charge justement de pouvoir gérer cette mise en relation entre des associations et des entrepreneurs qui veulent accueillir ces personnes-là.
Alors, à minima, qu'est-ce qu'il faut avoir? Parce qu'on ne va pas accueillir, si on n'a que des bureaux, c'est un peu compliqué. Je disais au début de notre échange, il faut peut-être à minima avoir un bloc sanitaire, un endroit pour coucher, un canapé-lit ou des matelas gonflables. Je ne sais pas, il faut quand même avoir un minimum pour accueillir dans de bonnes conditions ces personnes-là.
Alors, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'en fait, les gens que nous accueillons sont des gens qui sont dans la rue. Et, ou alors qui sont en solution de logement extrêmement précaire, c'est-à-dire que limite tous les soirs, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont loger. Ce qui est extrêmement compliqué pour eux de combiner le travail, la journée et la galère de trouver un job. Donc en fait, on leur redonne de l'intimité et on leur redonne un lien social. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, vous avez une salle de réunion, vous mettez dedans un canapé qui fait clic-clac ou qui fait canapé-lit, ça c'est la base. Vous avez une armoire qui ferme à clé, très important.
Ah oui, fermée à clé.
Très important, parce qu'en fait, c'est le début du retour à l'intimité. C'est qu'en fait, ils ont un endroit où ils savent qu'on ne va pas pouvoir venir leur piquer leurs affaires. Et donc c'est un élément. Et j'ai envie de vous dire, c'est tout. Après, derrière, vous avez une cuisine, génial. Vous avez une douche, super. Mais en fait, oui, bien évidemment, il faut des sanitaires. Mais tous les autres, comme on le dit aujourd'hui, le must-have, c'est un lit, un endroit, une armoire qui ferme. Et des équipes qui sont accueillantes pour pouvoir redonner ce lien social à nos invités.
Vous parliez de lien social. L'idée, c'est pas simplement d'arriver quand l'entreprise est fermée et de repartir avant qu'elle ouvre. L'idée, c'est aussi qu'il y ait peut-être des points de rencontre entre les collaborateurs d'une entreprise et ces personnes-là, qu'il y a un minimum un échange ou pas?
Alors, ça fait partie du principe, c'est pas une obligation, mais je vous donne l'exemple de mon entreprise. J'ai la joie d'accueillir mon cinquième invité.
Vous les appelez des invités, hein?
Oui, on les appelle des invités parce qu'en fait, ils sont invités. En fait, il n'y a pas de loyer, on leur demande rien du tout. En fait, on met nos entreprises à leur disposition. Et donc, moi, j'ai même pas de contrainte horaire entre 18h, 8h et ainsi de suite. En fait, moi, je lui dis, t'es invité, tu viens quand tu viens, tu repars quand tu repars, t'as pas de compte à me rendre. Voilà. Et en fait, le but, c'est déjà, on leur redonne confiance, on leur redonne un espace et du coup, ils peuvent retrouver et croiser mes salariés qui sont en général assez contents de pouvoir prendre le temps de discuter avec eux.
Qu'est-ce que vous retenez de ces 5 invités? Parce que c'est des parcours de vie et même si... le lien social n'est pas, enfin on dirait, cette rencontre entre l'entreprise, les collaborateurs et le dirigeant n'est pas forcément une obligation. Vous avez quand même discuté avec ces gens, vous avez parlé de leur parcours, etc. Et est-ce qu'il y a des points communs d'abord dans ces parcours? Est-ce qu'il y en a qui vous ont plus touché que d'autres, Louis?
Alors moi, en fait, la chose qui m'a le plus touché, et ça vaut pour les 5, c'est que leur vie entière tient dans deux sacs Carrefour. Leur vie entière tient dans une petite valise. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez marquant. La deuxième chose que je trouve assez géniale, c'est qu'en fait, c'est des personnes avec qui, assez facilement, on arrive à créer du lien. Et en fait, ils sont isolés par leur situation, mais en fait, très rapidement, on arrive à recréer du lien avec eux. Ils ont des parcours qui sont des parcours rugueux, qui sont des parcours difficiles. Et je trouve que quand je vois les sourires des invités, quand ils me rendent la clé, parce qu'ils ont trouvé une solution de logement pérenne et qu'ils vont enfin pouvoir être installés correctement, ben en fait, ce sourire en dit long sur leur gratitude d'avoir pu leur tendre la main à ce moment-là.
Vous avez gardé un peu de lien avec les quatre autres précédents.
J'ai gardé un peu de lien, mais bon, c'est pas ce
qu'il faut attendre.
Je ne crois pas. Il y a des très belles histoires avec beaucoup de nos hôtes qui créent des vrais beaux liens d'amitié. Après, moi, je garde contact. Ils savent qu'ils ont tous mon portable. Ils peuvent m'appeler s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Mais je dirais que c'est vrai que dans mon cas, il n'y a pas eu de lien d'amitié qui s'est créé.
Qui s'est créé plus que ça. Alors, bien évidemment, accueillir des personnes en galère de logement, c'est pas donné à tout le monde. Comment l'association accompagne les entreprises ? Il y a des petites choses à savoir. Il faut préparer aussi les collaborateurs à cette arrivée de cet invité. Comment ça se passe ?
Alors, je vais commencer par les collaborateurs. En fait, ça ne peut pas être l'idée du chef d'entreprise tout seul. Parce que le chef d'entreprise, il n'est pas tout le temps là. Les collaborateurs, c'est souvent eux qui vont être au contact de la personne. Si c'est quelque chose qui est subi, on ne va pas arriver à redonner ce lien social. Donc ça, c'est le premier point qui est essentiel, c'est qu'il faut que ça soit une démarche d'entreprise. Mais tous nos hôtes nous témoignent du fait que tous leurs salariés, moi je sais que j'ai demandé à mes salariés, il n'y a pas un seul salarié qui doute en fait. Bien évidemment, tout le monde est d'accord. Donc ça, c'est un élément hyper important. J'ai envie de vous dire, dans les entreprises aussi qui cherchent à vouloir redonner du sens aujourd'hui pour leurs salariés qui sont en recherche de sens, je vous promets que ça, c'est un vrai sens.
Bien.
Et puis, c'est un sens concret. Ouais. C'est pas un sens chèque. C'est un sens concret.
C'est voilà. Ça, l'entreprise s'engage au sens voilà.
Donc
propre du terme.
Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Reposez-moi votre question, Patrick, parce que j'ai oublié la deuxième partie de la question.
La deuxième partie, c'est comment on prépare l'entreprise.
Ah oui, alors oui. Alors, donc, c'est là où, en fait, c'est là toute notre valeur ajoutée, les bureaux du cœur, c'est qu'en fait, tout est organisé, tout est préparé. Tous les aspects juridiques, tous les aspects assurantiels, tous les aspects contractuels, parce que, encore une fois, redonner du lien social aux personnes qu'on accueille, à nos invités, en fait, c'est leur faire signer un contrat, c'est pas de les déresponsabiliser, au contraire,
c'est recommencer à
les faire assumer leurs responsabilités. Et donc, toute la structure, en fait, donc, si vous voulez ouvrir votre entreprise, en fait, vous contactez les bureaux du cœur, vous allez un ou une bénévole va venir vous rencontrer, va d'abord venir vous dire oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Ou alors, c'est possible, mais il va falloir aménager ci, ça, ça, comme ça. Donc ça va être la première étape. Et ensuite, les bureaux du cœur se chargent de toute la relation avec les associations. Et donc, en fait, on va vous contacter, on va vous dire, voilà, j'ai un invité à vous proposer pour mettre dans vos bureaux. Est-ce que vous êtes OK ? Oui, OK. Et ensuite, l'association va accompagner complètement la mise en œuvre. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, on vous apporte une prestation complète de A à Z. Vous avez
et
juste...
on forme pas un peu les collaborateurs sur la manière d'être, sur la psychologie, sur la compréhension aussi de ces personnes qui galèrent, comme dites, ces personnes rugueuses qui, pour certaines, ont vécu dans la rue, qui ont vécu des souffrances, des migrations. Est-ce qu'on prépare aussi un petit peu les collaborateurs à savoir créer du lien ou pas ?
Alors d'abord... Il n'y a pas tant d'agressivité, en fait. Il n'y a pas tant de... En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les gens prennent très, très vite conscience de ce qu'on leur apporte, en fait. Donc, très, très vite, le lien social se refait. Ça, c'est le premier point. Et alors, oui, c'est dans nos projets. Ça n'a pas encore démarré, mais on chemine.
Ben, c'est ça.
Mais une de nos trois ambitions, c'est justement de transformer les collaborateurs des entreprises en ambassadeur de la démarche des bureaux du cœur et pour ce faire, d'être capable de leur mettre à disposition des modules de formation, des explications sur comment appréhender la relation avec ces personnes-là. Et donc, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux et qui bon, je pense que à horizon fin 2024, on devrait être opérationnel.
Fin 2024, vous devrez. Merci beaucoup, Louis, en tout cas, de nous avoir présenté ces bureaux du cœur. On voit bien nos bureaux peuvent servir au-delà de 18h ou 19h le soir pour permettre à des personnes en galère de pouvoir se reposer et rebondir vers de nouveaux projets et trouver un logement plus pérenne. Merci beaucoup à vous, Louis. Nous, on termine cette émission. C'est l'avant-dernière de la saison. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr tous les vendredis dès 17h en digital et à 14h sur toutes les antennes RCF et au-delà. En FM et en DAB+. C'est formidable, c'est la nouvelle technologie. Il faut que vous la reteniez, le DAB+. Merci à vous toutes et à vous tous. Un très, très bon week-end. N'oubliez pas une seule chose dans ce week-end, c'est demain, vous allez voter.